Donc, moi, juste pour présenter, donc moi je suis chercheuse CNRS et je suis aussi donc, responsable juridique pour Creative Commons France. Et donc, c'est le chapitre affilié de Creative Commons, donc de ces licences, une catégorie spécifique donc de licences libres qu'on a effectivement donc, transposé en droit français pour s'assurer que ce reste compatible avec le droit. Et donc, dans cette présentation, c'est un peu une double présentation. Et c'est par rapport à la présentation de Sophia, c'est en partant, donc, je me concentre uniquement sur la dernière partie. Donc, une fois qu'on a géré tous les problèmes de partenariat, de rédaction des contrats, etc., c'est par rapport à qu'est-ce qu'on fait effectivement de ces œuvres, donc comment est-ce qu'on va les mettre à disposition du public. Et en partant du principe qu'il y a quand même un désir d'ouverture, donc on veut que ces offres soient non seulement accessibles, mais pourquoi pas permettre en fait une forme de réutilisation ou d'incrémentalisation, donc que les acteurs puissent interagir, mais puissent aussi reconstruire des œuvres, les faire évoluer au fur et à mesure. Et donc évidemment, quels sont donc les outils juridiques pour faire ça, mais ensuite, quels sont évidemment donc les problèmes de si on a des systèmes qui sont complètement ouverts, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'a plus vraiment le contrôle, on ne peut plus vraiment tracer ce qui se passe. Et donc, en quoi on peut utiliser une forme de combinaison entre des outils juridiques, qui sont donc les licences, et des outils techniques qui permettraient donc, malgré cette ouverture, de maintenir une forme de contrôle ou de traçabilité. Et donc, je vais parler un petit peu de la blockchain. Donc, voilà. Donc la grosse question, c'est effectivement, donc est-ce qu'une fois qu'on a développé ces œuvres en partenariat avec les différents acteurs, est-ce qu'on veut rester dans une forme d'exclusivité dans laquelle on va contrôler comment est-ce que ces œuvres peuvent être utilisées et comment deux personnes peuvent construire des offres par rapport aux offres des musées? Ou alors, est-ce qu'on veut rentrer dans une optique plus collaborative, d'innovation incrémentale, et donc en fait, d'une certaine façon, de donner à l'écosystème la possibilité de construire de nouvelles offres par rapport aux offres existantes. Et donc évidemment, selon de ce choix, on va utiliser des outils différents. Un aspect intéressant donc, notamment qu'on avait discuté avec Sophia, c'est qu'effectivement, lorsqu'on réfléchit donc, à la question des offres des musées, c'est intéressant aussi de se poser la question par rapport à quelles sont les œuvres qui font partie de ces offres, dans la mesure où il pourrait y avoir en fait une forme de distinction lorsqu'il s'agit d'œuvres qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire que l'œuvre elle-même n'est pas protégée par le droit d'auteur, et des œuvres par contre qui elles sont toujours protégées par le droit d'auteur. Mais ensuite, donc, comment construire l'offre autour? Et donc, ce qu'on discutait, c'était qu'effectivement, lorsqu'il s'agit d'une œuvre qui est dans le domaine public, c'est peut-être plus compliqué de faire une offre qui elle-même elle est dans une licence ouverte, puisqu'en fait, on n'a pas l'outil on ne peut pas protéger nos œuvres. Ce qui fait qu'en fin de compte, n'importe qui peut commencer à fournir des nouvelles offres par rapport aux œuvres du musée sans en fait aucun besoin d'intervenir ou d'interagir avec le musée lui-même. Alors que lorsqu'on est dans un système où les œuvres elles-mêmes sont protégées par un droit d'auteur, évidemment, on va pouvoir créer des nouvelles offres, mais ces nouvelles offres, elles vont toujours reporter vers la source, puisque c'est eux qui ont le droit de visualiser ou de communiquer par rapport à ces offres. Et donc, c'est presque, c'est un petit peu, on va dire, paradoxal dans la mesure où le domaine public, parce que justement, il n'a pas de protection sur les offres, il aura besoin peut-être d'une protection juridique par rapport aux offres pour justement maintenir une forme d'exclusivité ou de contrôle par rapport pour les musées, tout en sachant qu'évidemment, il y a toute la question intéressante par rapport à est-ce qu'effectivement on peut tout de même dériver donc un droit de propriété sur une œuvre dans le domaine public dans la mesure où la numérisation même de l'œuvre va comporter effectivement l'émergence d'un droit. Et par contre, donc lorsqu'on rentre l'art contemporain ou enfin dans tous les musées qui en fait touchent des œuvres qui elles-mêmes sont protégées. Dans ce cas, en fait, si on prend un peu cette optique donc, de l'open data, il y aurait peut-être un intérêt plus fort en fait à créer des offres ouvertes, puisque en fait ça veut dire qu'on va justement bénéficier de tout l'écosystème, donc de tous les acteurs qui décident de créer des offres à valeur ajoutée par rapport aux œuvres qui sont, donc, qui sont gérées par le musée. En fait, ça veut dire qu'ils ont un bénéfice direct, puisque de toute façon, ces nouvelles offres qui sont créées par un écosystème d'acteurs ouverts va revaloriser ma propre collection et les gens vont de toute façon venir vers moi ou devoir obtenir les licences par rapport à ces œuvres. Et donc voilà, on a cette espèce de paradoxe parce qu'en fait, on se rend compte que l'offre va avoir un caractère presque opposé au caractère juridique de l'offre elle-même. Voilà, donc on rentre un peu dans la question juridique. Donc, quels sont donc ces outils qui sont à disposition du public si on décide d'utiliser des licences libres pour permettre l'innovation incrémentale par rapport à l'écosystème. Donc, on a, comme Sophia disait, donc le droit d'auteur qui crée des droits patrimoniaux ainsi que des droits moraux. Et donc, le droit d'auteur, de façon traditionnelle, c'est que tous les droits sont réservés, c'est-à-dire que si on veut utiliser une œuvre, la communiquer, la modifier, etc., on va devoir rentrer en contact avec le titulaire des droits et obtenir une licence spécifique. Alors que dans les licences donc Creative Commons ou les licences ouvertes en général, on passe donc de tout droit réservé vers certains droits réservés, c'est-à-dire que ce sont les titulaires du droit qui vont décider, donc avec ces licences publiques, qui va donc licencier automatiquement une série des droits. Par contre, il ne s'agit que des droits patrimoniaux, donc on ne peut pas licencier les droits moraux qui sont inaliénables. Mais par contre, donc, je peux décider que n'importe qui, sans avoir besoin d'obtenir une permission préalable, va pouvoir reproduire et redistribuer des œuvres, ainsi que potentiellement les modifier, avec donc des conditions spécifiques par rapport à l'utilisation commerciale ou la modification. Donc là, on a les différentes conditions. Donc, toutes les licences, elles obligent, étant donné notamment les droits moraux, elles obligent une attribution, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec l'œuvre, mais toujours on aura l'obligation de maintenir, de communiquer la source et l'auteur de ces œuvres. Ensuite, il y a l'option commerciale ou non commerciale, c'est-à-dire qu'on peut permettre des réutilisations seulement dans un contexte non commercial. Ensuite, il y a l'option non dérivée qui permet donc la reproduction et la communication commerciale ou non commerciale, mais on ne peut pas modifier l'œuvre. Et ensuite, il y a donc la clause copyleft, donc de partage à l'identique, c'est-à-dire que si on décide de créer une offre dérivée par rapport à cette œuvre, on va être sous l'obligation de la mettre exactement sous les mêmes conditions de l'œuvre originale. Et donc, c'est ça un peu l'effet de contamination pour s'assurer qu'en fait, personne ne peut s'approprier des résultats d'une œuvre qui, elle, a été mise dans les communs. Donc, en combinant ces différentes licences, ces différentes options, on peut donc obtenir 6 licences différentes qui vont répondre en fait aux besoins des différents titulaires. Donc, évidemment, ce sont des licences donc juridiques, mais qui vont aussi intégrer donc la possibilité d'incorporer certains du code enfin, de façon à ce que notamment le statut juridique des œuvres peut être reconnu automatiquement par des machines qui vont donc se situer sur le web et vont identifier que cette œuvre peut être réutilisée, que notre œuvre ne peut pas. Donc, notamment, par exemple, si on va sur Google, la recherche d'images de Google, on peut choisir la condition de ne visualiser que des œuvres qui sont sous une licence libre à fond des conditions. Donc, il y a l'avantage donc, pour les auteurs, parce qu'effectivement, ils peuvent permettre certaines utilisations, mais pas d'autres, hein, selon donc de leurs besoins. Il y a l'avantage pour les utilisateurs parce qu'ils peuvent comprendre très facilement donc quels sont les droits qu'ils ont par rapport à chaque œuvre. Et ensuite donc la possibilité de grâce aux métadonnées d'automatiser les utilisations. Donc Évidemment, donc ce sont des licences qui ont été créées essentiellement pour répondre en fait au nouveau contexte numérique. Donc, elles s'appliquent sur les œuvres qui sont dans tous les formats, notamment parce que bah, désormais on est dans une situation où effectivement, dans beaucoup de cas, on est dans un modèle où on a trop d'informations. Et aujourd'hui, en fait, le but, ce n'est pas vraiment l'exclusivité, parce que si on crée encore plus, on crée l'exclusivité sur une information, bah, tout simplement, il n'y a personne qui va y accéder, alors que le but aujourd'hui, c'est au contraire d'essayer de sortir hein, par rapport à cette masse d'informations et de ressortir comme étant une information de valeur. Et donc, d'une certaine façon, on change un petit peu l'optique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les œuvres qui sont non librement communicables et redistribuables sur Internet, vont avoir beaucoup moins de visibilité que des œuvres qui sont librement reproduites. Et donc, il y a donc l'avantage de permettre en fait d'obtenir un public plus large, et ensuite donc évidemment la possibilité de faciliter la collaboration entre des acteurs qui ne se connaissent pas, puisque on peut créer donc avec l'exemple de Wikipédia, mais on peut créer donc des plateformes où n'importe qui va pouvoir apporter sa petite pierre et contribuer sans avoir besoin justement de rentrer dans toutes les complexités de partenariat juridique, etc. Ainsi que donc la possibilité d'une innovation ouverte où ben, n'importe qui va pouvoir prendre quelque chose, la modifier, la faire évoluer, et surtout la possibilité justement lorsqu'on ne connaît pas exactement qu'est-ce qui intéresse le public, qu'est-ce qui intéresse les citoyens, la possibilité en fait de donner la possibilité de répondre à leurs propres besoins, tout en fournissant donc la matière première, et ensuite, bah, s'il y a des besoins, s'il y a des demandes, de voir que cela peut émerger directement de ces communautés, parce qu'elles ont la possibilité de s'emparer de ces outils. Voilà, donc par contre, évidemment, donc, il y a des avantages, il y a aussi des problèmes. Un problème important, c'est notamment le problème de la traçabilité. Ça, c'est vraiment un problème qui touche beaucoup des acteurs Creative Commons, parce que il y a en fait un désir, lorsqu'on va créer une œuvre, de pouvoir suivre où est-ce qu'elle va, qu'est-ce que les gens en font, quelles sont les utilisations, quels sont les remixes, etc. Et ça, c'est quelque chose que pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution, parce que justement, ce désir d'ouverture est un peu incompatible avec la traçabilité. Et surtout lorsqu'il s'agit donc dans le cas des musées, lorsqu'il s'agit de créer des offres culturelles par rapport à certaines œuvres, on veut aussi s'assurer d'une certaine façon que les informations qui vont décrire les œuvres ou etc. sont correctes, puisque ça a été délégué un peu à la collectivité, il n'y a plus cette forme d'autorité qui va vérifier la pertinence et la véracité de toutes les informations. Et ensuite, donc, la traçabilité pour voir comment ces œuvres sont utilisées, qui en fait quoi et tout ça. Et donc, voilà la blockchain qui arrive. Donc, la blockchain qui pourrait représenter, d'une certaine manière, une solution, en tout cas partielle, pour, d'une certaine façon, donc, complémentarité, ce désir d'ouverture avec le désir de responsabiliser les acteurs qui vont modifier ou qui vont faire évoluer ces offres, tout en donc gardant une traçabilité justement de l'évolution de ce que ces offres font, et pourquoi pas de permettre une possibilité donc de rémunération pour, surtout si ben, que ce soit le musée ou si un groupe d'acteurs ont créé une offre qui est particulièrement intéressante et qui donc a beaucoup de succès, et que quelqu'un d'autre va la modifier un petit peu et va fournir une offre très semblable mais recontextualisée, grâce à cette traçabilité, d'aller quand même récompenser les personnes qui, en fin de compte, ont contribué, donc soit le musée qui a fourni la plateforme initiale, soit les différents groupes qui ont participé à la création de cette offre finale. Donc, je vais pas trop perdre du temps à expliquer la blockchain parce que je pense que plus ou moins, je sais pas si ça. En gros, est-ce que je dois passer quelques secondes à expliquer la blockchain? Oui, parce que je sais jamais assez bien. Donc, la blockchain, c'est donc la technologie qui est basée, donc qui est née avec Bitcoin et qui s'est développée au-delà donc des crypto-monnaies. Et essentiellement, donc, c'est une base de données décentralisée qui a certaines particularités. Donc, notamment le fait que donc il n'y a pas une autorité centrale qui peut contrôler, donc il n'y a pas le problème de la gestion centralisée, et qui va donc utiliser des systèmes de cryptographie pour s'assurer de l'authenticité des informations, c'est-à-dire que toute information qui va être enregistrée sur la blockchain va être authentifiée avec la clé privée donc de l'acteur qui va l'enregistrer. Et donc ça fait une forme de non-répudiation. Je ne peux pas inscrire une information sans que les gens sachent effectivement que je l'ai inscrite. Mais surtout, puisque cette base de données, elle est immuable, donc on ne peut pas effacer, je ne peux pas plus tard prétendre de ne pas avoir enregistré cette information. Et donc l'idée essentielle, c'est que chaque acteur va donc avoir cette copie, et donc à chaque fois qu'une personne inscrit une information, tout le monde va vérifier si cette information est effectivement correcte d'après le protocole de la blockchain. Et donc ça permet cette forme d'intégrité et surtout donc de traçabilité, c'est-à-dire que ça crée vraiment un log de toutes les transactions qui ont été effectuées, sans qu'il y ait un opérateur qui puisse les manipuler ou potentiellement les effacer. Voilà. Donc, au-delà des crypto-monnaies, une des fonctionnalités les plus importantes de la blockchain, donc c'est effectivement l'attribution des événements. C'est-à-dire que ça répond à cette question de qui a fait quoi quand, de façon donc que tous les acteurs qui interagissent sur la blockchain sont d'accord que c'est effectivement l'ordre à lequel ces interactions ont été effectuées. Et donc, là, pour essayer d'appliquer ça dans le contexte des musées, je vais parler donc d'un projet qu'on est en train de lancer avec Creative Commons, qui, c'est pas exactement sur les musées, mais je pense qu'il y a une corrélation assez intéressante, c'est sur les ressources éducatives ouvertes. Et en fait, qui retrouve un petit peu le même problème, c'est-à-dire que d'un côté, on veut maximiser la dissémination de ces informations, mais en même temps, on veut effectivement qu'il y ait des personnes qui vont les revaloriser, qui vont créer des nouvelles formes de cours, ou etc. Donc, on veut que ces œuvres, qui dans ce cas sont des œuvres éducatives, soient en fait incorporées dans de nouvelles offres. Mais par contre, en même temps, et surtout parce qu'il s'agit donc d'éducation, on veut s'assurer que l'information est correcte, qu'elle n'a pas été déformée lorsqu'elle a été modifiée, etc. Mais surtout, on veut aussi une traçabilité pour savoir qui a contribué de quelle façon. Donc on a lancé ce projet qui s'appelle BOC, qui justement utilise les licences Creative Commons d'un côté et la blockchain de l'autre, pour essayer en fait de créer cette plateforme d'agrégation. Pas des contenus eux-mêmes, puisque les contenus, ben, ils sont pas sur la blockchain directement, mais ils sont sur Internet, mais par rapport à toutes les métadonnées qui sont associées à ces œuvres. Et donc l'idée, c'est que d'un côté, donc, on peut assurer donc l'attribution, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont produire une œuvre, ou qui vont la modifier, ou qui vont la remixer au fur et à mesure, ils vont pouvoir inscrire leur contribution sur la blockchain, donc ça nous donne une traçabilité. En même temps, ça donne la possibilité, puisque on a cette espèce d'arbre généalogique de l'œuvre, ça permet à des acteurs qui sont des acteurs tiers d'aller vérifier et de, s'ils le désirent, certifier la qualité de ces ressources, de façon qu'ensuite l'utilisateur, lorsqu'il peut donc voir, lorsqu'il va récupérer un cours par exemple, il va voir peut-être que les différents chapitres du cours ont été créés par différents acteurs, que ces différents chapitres, peut-être un ou deux, ont été certifiés par le CNRS, un autre a été certifié par MIT, etc. Peut-être un a été traduit, dont la version originale était certifiée, mais la traduction n'a pas été certifiée, de façon à ce que lorsque je consomme mes informations, en fait, en tant qu'étudiant ou n'importe qui, je sais quel poids donner à quelle partie de cette offre. Voilà. Tout en sachant aussi donc notamment quelles sont les licences. Donc on enregistre aussi bien donc les questions de la qualité ou de la certification que les droits qui sont associés avec ces œuvres. Donc voilà, donc les trois avantages, c'est c'est d'un côté donc la traçabilité, l'attribution des acteurs qui ont participé et la possibilité de comprendre l'évolution des œuvres. Ensuite, la certification de la qualité qui est subjective et donc on peut avoir des autorités de certification qui peuvent être des universités, qui peuvent être des musées, qui peuvent être n'importe qui vont s'activer pour justement aller vérifier les différents éléments. Et ensuite, la possibilité donc d'une compensation ex post si effectivement il y a de l'argent qui arrive. Donc là, c'est les trois présentations. Donc, on peut voir qu'on a par exemple l'œuvre ou l'offre originale qui ensuite va être traduite par une autre personne. Ensuite, peut-être donc la personne jaune va décider de modifier un petit peu cette traduction. Et puis ensuite, la personne bleue va dire, ah ben, je prends ça et puis je vais faire un remix. Donc je m'inspire, je vais une œuvre dérivée par rapport à ça. Et donc on va permettre cette traçabilité. Ensuite, donc la certification, c'est-à-dire qu'à chacun de ces points, qui sont donc une version, différents acteurs vont pouvoir effectivement donner leur aval et dire, moi j'ai contrôlé ce contenu et je trouve que d'après mes critères subjectifs, c'est un contenu qui rencontre ce degré de qualité et donc pareil, ça devient visible aux utilisateurs. Et ensuite, bah, notamment, donc, s'il y a une forme de compensation qui arrive plus tard parce que justement, bah, il y a une offre qui est extrêmement, qui a beaucoup de succès, etc. Souvent, évidemment, la compensation arrive à la fin de la chaîne, mais puisqu'on a maintenu cette traçabilité qui comprend non seulement donc la typologie de contribution, mais aussi la qualité de la contribution, on peut avoir un système qui va en fait récupérer donc l'argent à la fin de la chaîne, mais le redistribuer de façon plus ou moins équitable à tous les acteurs qui ont participé à l'évolution de ce cadre. Je crois que j'ai terminé.